Oui.
Oui, c'est bon, excuse-moi. Hein.
C'est
C'est
bon,
juste.
voilà, pas de problème.
Voilà.
Pas de problème.
Voilà.
Eh bien, si ça vous va, on commence dès maintenant.
Oui.
Avec les commencements, à savoir que vous me disiez comment vous aimez vous présenter habituellement.
Alors, moi, je représente simplement un artiste plasticien. Khalidou Kassé est un artiste aujourd'hui qui travaille dans le cadre, je peux dire, communautaire. Parce qu'encore pour la définition de l'art, moi je ne fais pas de l'art pour l'art, ça ne me rapporte rien du tout. Je fais de l'art pour le progrès. Quand je dis que je fais de l'art pour le progrès, parce que nous sommes actuellement en face d'une nouvelle humanité qu'on doit reconstruire les nouvelles identités, parce qu'actuellement le monde traverse une situation extrêmement difficile. Donc, extrêmement difficile. Et ce sont les artistes aujourd'hui, comme je le dis souvent, qui s'élèvent toujours avant les autres pour comprendre les véritables enjeux de nos sociétés contemporaines qui sont aujourd'hui, qui font face notamment à un échec des politiques. C'est aux artistes de prendre la parole, de prendre le pinceau, le burin, le marteau, ainsi de suite, la guitare, tout, pour s'exprimer, expliquer à la face du monde véritablement là où nous voulons aller et ce que nous voulons de ce nouveau monde. C'est pour cela que depuis très fort longtemps, j'ai toujours travaillé dans le cadre, c'est-à-dire social, mais artistique, c'est-à-dire en exprimant à travers mes œuvres les conditions que vit ma société. Comment vit ma société? Parce que je suis un citoyen du monde, j'habite le monde et je parcours le monde pour exprimer ce que je ressens. Tout au début, j'étais installé aux États-Unis, bien sûr, parce que j'étais aux États-Unis, à New York même, où j'ai fait 6 ans, j'ai pu travailler avec beaucoup d'artistes qui véritablement ont montré par rapport à leur travail, ce que nous devions véritablement partager. J'étais à, je peux dire même à Soho, où c'était pratiquement la rencontre des artistes du monde. À Soho, c'était simplement pour voir ce qu'il faisait l'autre à travers les différentes galeries qui présentaient des œuvres, comme je peux dire, c'est ce qu'ils font de l'art contemporain, c'est ce qu'ils font de l'art moderne, c'est ce qu'ils font de l'art classique, c'est ce qu'ils font de l'art traditionnel. Mais tout cela, c'était bien. Mais le point commun et le déterminant le plus important, c'était véritablement d'atteindre nos objectifs à travers ce que nous faisons, ce que nous exprimons.
Alors, c'est marrant parce que enfin, vous vous définissez du coup comme citoyen du monde, vous vous définissez pas comme un artiste sénégalais, vous préférez plutôt justement parler d'un artiste dans le monde, ou c'est important pour vous?
Je suis un artiste du monde, tout en sachant que mes origines sont africaines. Bien sûr, on ne peut pas venir du néant pour véritablement rentrer dans le global. Parce que ce que j'appelle le local et le global, c'est deux choses différentes. Parce qu'on vient du local pour aller dans le global. Donc je suis un artiste du monde qui parcourt le monde, qui a appris là où ont appris les autres. Donc je fais partie des artistes du monde en disant que je suis un artiste véritablement qui vient d'Afrique et qui véritablement assume ses origines aussi.
Et donc là encore, vous parlez toujours pas du Sénégal, mais là plutôt du continent africain, du coup. C'est ça?
Non, je parle du monde entier parce que ce n'est pour rien que j'étais installé à New York. Ce n'est pour rien aujourd'hui que je parcours le monde dans les galeries, dans des musées où j'expose, où je fais mes présentations de mes œuvres à travers des thématiques qui interpellent le monde entier. Parce que quand je fais une présentation, c'est une présentation qui aujourd'hui interpelle le monde entier. Et je pense que c'était important de déterminer cela, parce que quand on dit je suis un artiste sénégalais, effectivement c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait à travers ces œuvres? Parce que moi je pense que le plus important c'est de me mettre en face de moi-même et de dire que je suis un artiste sénégalais. Je suis un artiste du monde, un citoyen du monde, qui habite le monde et qui parcourt le monde aussi.
Et est-ce que vous diriez que depuis le départ que vous créez, est-ce qu'il y a une question une thématique qui vous obsède et que vous ne, qu'encore aujourd'hui vous ne cessez d'explorer?
Alors, je n'ai pas de thématique typique pour dire que voilà cette thématique-là que je vais explorer tout le temps, mais je fonctionne au gré, si on peut dire, des courants du monde. Tout au début, effectivement, j'ai pris un recul pour comprendre d'où est-ce que je viens. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, qui est simplement communication ou communicatif, je peux dire, la communication est fondamentale et à l'avant-garde de tout. Je suis un artiste qui aujourd'hui, tout au début, a compris que l'Afrique à des besoins prioritaires. J'ai toujours dit à mes étudiants, j'ai dit à mes étudiants parce que je suis aussi fondateur d'une école d'art privée, ils sont la première école d'art privée du Sénégal, que la manière de faire l'art en Europe ou aux États-Unis est très différente de la manière dont on le fait en Afrique. Parce que l'Afrique, d'abord, fait face à des difficultés, à des priorités, qui sont aujourd'hui l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, l'accès à la santé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, on prend compte de tous ces aspects-là pour dire que qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Tous nos pays d'Afrique, aujourd'hui, depuis l'avènement du président Senghor, qui était premier président du Sénégal, qui a compris très tôt l'importance de l'art dans le monde, a su insuffler cette dynamique au Sénégal et à un peu une partie de l'Afrique. C'est pour cela qu'il a créé dans les années 60 beaucoup d'institutions culturelles qui véritablement travaillent dans ce sens-là pour éduquer l'école des beaux-arts, l'école de danse moderne Afrique, ainsi de suite. Il avait quand même pris une avance, une véritable avance sur l'Afrique et un peu dans le monde. Mais plus tard, qu'est-ce qu'on a eu comme fa en face? Dans les années 80, il y a eu ces ajustements structurels. L'arrivée de la Banque mondiale qui disait plus d'État et moins d'État, c'est quoi? C'est parce que les artistes recevaient des subventions qui émanaient de l'État, qui allaient à des sommes extraordinaires. Mais ces subventions ont été simplement bloquées ou supprimées simplement. Les espaces que les artistes habitaient à l'école des beaux-arts ont été supprimés ou simplement retirés des artistes, délogés et même, je peux dire, des évoqués à l'époque parce qu'ils ne comprenaient pas que des artistes puissent habiter aux frais de l'État. Ils ne comprenaient pas que des artistes soient bien traités que les fonctionnaires. Il y a eu beaucoup de problèmes en ce moment. C'est dans ce moment qu'il y a eu un véritable recul au niveau de la création parce que les artistes se sont confinés chez eux. Mais heureusement que ce recul nous a permis encore aux artistes de rebondir pour encore être plus forts dans la créativité. C'est pour cela que ce qui arrive aujourd'hui, que nous sommes encore debout. Mais effectivement, cette période a été une période très dure, ressentie par les artistes, parce que le monde de la culture, le monde économique disait que la culture doit venir après le développement. Bon, ça se comprend, parce que nous avons des priorités de santé, d'accès à l'eau potable, et ainsi de suite. Mais je pense que c'était normal, parce qu'ils pensent comme ça. Mais c'est aux artistes maintenant de montrer que nous sommes toujours là et nous sommes toujours debout.
Alors, et quels sont justement vos différents moyens de vous exprimer? Et on vous connaît beaucoup pour la peinture.
Alors, moi, je m'exprime en ce moment précis. Je suis là en face d'une œuvre qui fait 4 mètres de long. Je pense, hein, semble c'est 4 mètres, hein, une œuvre qui fait 4 mètres de long. Je suis en train de m'exprimer parce que le ministre de la Culture nous a invité aux acteurs, a invité aux acteurs, les acteurs culturels à s'impliquer dans cette lutte contre le coronavirus. Effectivement, depuis que j'ai entendu, parce que je suis les informations sur l'Occident, sur ce qui se passe sur France 24, Africa 24, et ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Donc, il faut simplement prendre les devants. Donc, ça me permet. Moi, je m'exprime sur tous les médiums, sur tous les supports. Je suis un artiste polyvalent. Je suis en train de faire une installation qui actuellement réunit les trois religions, le christianisme, la religion musulmane, le judaïsme. C'est là devant moi. Je suis en train de faire cette installation en ce moment. Récemment, c'était avec l'immigration clandestine, le mouvement des personnes déplacées, où j'ai eu le privilège de recevoir le ministre des Affaires étrangères de la France qui est venu voir mon installation en présence du président Macky Sall et du président Adama Barrow. Je lui ai expliqué cette problématique aujourd'hui qui, depuis des années, dure. Mais comment cet espace, ce phénomène est géré? Parce qu'en fait, il y a des relents économiques. Est-ce qu'il y a des intérêts d'État entre États? Parce qu'on dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Comment faire pour leur montrer que cette installation devrait parler aux embarcations qui passent de l'Afrique, de partout dans le monde, finalement? Et non. Un autre devoir en tant qu'artiste du monde, c'était d'alerter parce que je les ai rencontrés à New York, je les ai rencontrés en Argentine, un peu partout, des jeunes qui, aujourd'hui désespérés, prennent tout simplement le large. Mais pourquoi? C'est parce que si on remonte aux années d'indépendance, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre avait dit effectivement, le monde s'effondre. Effectivement, c'était normal. Mais Amadou Kourouma a dit, Allah n'est pas obligé. Parce qu'effectivement, il y a eu ces guerres fratricides entre les pays, c'est-à-dire africains, le Libéria, autres, des jeunes sont nés de cette guerre, ils sont devenus des rebelles. Ils ont fugué, ils sont partis de leur côté. Maintenant, ça a entraîné ce mouvement massif de départ. Au fur et à mesure, ça s'est amplifié. Ça s'est... Et je pense que c'était bon, des fois, de remonter l'histoire pour comprendre qu'est-ce qui amène ces phénomènes-là. Et ce phénomène, je l'ai présenté à Podor, à 665 km de Dakar, en présence de mon ami et frère, le musicien, le talentueux Babou Mal, aujourd'hui qui fait la fête du monde. Et ça, c'était pour aller sensibiliser les populations de Podor, pour leur dire ne partez pas. Et ça fait peut-être une dizaine d'années ou une quinzaine d'années que je l'ai fait. Je l'ai présenté à Podor, une belle installation qui parlait aux jeunes de Podor.
Aujourd'hui, je vous rencontre dans le cadre du festival textile. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du travail que vous faites sur la tapisserie?
Alors, pour la tapisserie, je peux remonter un peu à mes origines d'artiste, parce que mon père, ma mère elle était une belle couturière. Elle
D'accord.
faisait de la couture, de la broderie, de la broderie à la main. Cela m'a conduit à aller faire une formation manufacture sénégalaise des arts pour être un artiste plasticien. Non seulement faire une formation complète, mais aller vers la tapisserie. Maintenant, bien sûr, je fais l'encre de Chine, je fais la sculpture, parce que là, je viens de terminer une grande sculpture monumentale au niveau de l'IRSF du centre de recherche du Gabon, d'ailleurs, qui s'est impliqué dans la lutte contre le coronavirus, qui fait 7 mètres de hauteur. Il y en a d'autres que j'ai réalisées ici. J'ai réalisé des fresques murales à l'université au port de Dakar, mais en carreau de faïence et en pâte de verre. Aujourd'hui, depuis fort longtemps aussi, je travaille sur la tapisserie. Mais c'est-à-dire en montrant ce que j'ai fait, parce que dans mes origines, je suis tisserand. Parce que mon nom de famille qui sort cassé est un tisserand dans sa famille. Moi, je l'ai pris dans le côté moderne. Parce que tout au début, avant de partir aux États-Unis dans les années 90-94, je suis allé en allant apprendre comment on tisse traditionnellement. Mais c'était assez compliqué de pouvoir tisser d'une manière traditionnelle à New York, parce qu'il n'y avait pas non seulement l'espace, mais non le recul nécessaire. Je me suis dit non, je vais me consacrer à la tapisserie que j'ai appris et je continue à faire de la tapisserie. Et une tapisserie qui rappelle de la peinture, parce que je ne suis pas dans cette démarche de suivre une tapisserie qui est née de Senghor, qui continue à reprendre les formes plates. Moi, je veux des formes qui me parlent, des formes qui se dilatent, qui s'expriment par la plasticité des mouvements, mais aussi dans le textile. Parce qu'à New York, j'ai beaucoup travaillé avec des fabriques qui faisaient des tissus. Quand je dis tissus, je suis aussi textile design. Il y a eu beaucoup de tissus que j'ai créés à New York qui se sont retrouvés au Sénégal par la force, par la magie de l'ordinateur. Parce que je travaille avec Afriland, je travaille avec Homeland, je travaille avec la fabrique de Sale Touré, Massates Fashion. Donc tout cela était basé à New York, à Broadway même, avec Mohamed Diop qui avait Afriland, qui avait été basé, il avait même un immeuble, un building à New York. Et d'autres chiffres avec qui m'achetaient des maquettes jusqu'à New Jersey. Qui était reproduite au niveau des tissus. Mais à partir du tissu, qu'est-ce que je fais? Je me dis que j'essaie d'intégrer la matière, c'est-à-dire ce que je veux dire, le pictogramme, dans la tapisserie, pour arriver à sentir ce que je fais sur le plan créativité et sortir totalement de ce qui se fait naturellement au niveau de la tapisserie. Parce que tout le monde sait que la tapisserie, aujourd'hui, c'est la création de la maquette, l'agrandissement de la maquette, le soit du chapelet de couleurs, tirer la chaîne de je peux dire la chaîne les fils de chaîne, commencer le tissage, l'agrandissement à l'échelle, mais tout cela c'est de respecter ce que ça crée. Mais moi j'ai la chance de créer ma maquette, d'agrandir mon carton à la dimension que je veux, de tisser ma tapisserie et de la descendre, la couper et même d'aller jusqu'à la couture. Mais aujourd'hui c'est un peu ça le travail d'artiste.
Qu'est-ce que nous aurons la chance de voir à Clermont-Ferrand? Qu'est-ce que vous allez nous présenter comme travail pour le film?
Ce que je vais vous présenter comme travail, c'est d'abord cette tapisserie que j'ai sortie avec. D'ailleurs, je me disais qu'est-ce que je vais leur présenter, mais je me suis dit c'est ça qui correspond un peu à ma démarche actuelle sur un peu ce mouvement de personnes aujourd'hui. C'est des personnes debout. C'est simplement rappeler aussi le symbole de la verticalité. Parce que souvent, il est important de dire, on montre toujours des personnes, on compte des morts. On dit qu'il y a tant de personnes qui sont mortes aujourd'hui, qui sont naufragées. Ils sont alignés. Et j'ai eu peur, j'ai eu cette tristesse de ma vie. J'ai dit, pourquoi ils sont toujours alignés, ils sont toujours couchés? Il faut que je revienne à la symbole de la verticalité. Je veux des personnes debout qui vont vers l'horizon, vers l'espoir, qui vont vers l'espoir, parce que c'est cet espoir qu'on doit partager. C'est cet espoir qui, je rappelle encore, ce n'est rien que l'amour. Parce qu'on dit que l'homme est le remède de l'homme dans notre jargon, c'est-à-dire dans notre traduction africaine, qui traduit « nit »,« nitay garabam ». Donc l'homme est le remède c'est l'être humain qui soigne l'être humain, l'homme et le remède de l'homme. Il est important de dire que l'amour est déterminant pour la consolidation des bases sociales dans l'éducation de nos nations, je veux dire. Parce que sans ces relations avec l'autre, c'est rappeler encore ce comment vouloir de vie commune. En conséquence, on doit simplement nous aimer les uns des autres, nous dépasser, dépasser nos antagonismes pour véritablement créer cette, je veux dire, communion, je peux dire même fusionnelle, relationnelle et fusionnelle. C'est ça que j'attends du monde. Je veux dire aussi que quand on aime, le meilleur amour dans la vie, c'est de protéger l'autre du mal. L'autre du mal, c'est-à-dire d'aller vers simplement sa destruction.
Est-ce que justement vous avez toujours été compris dans votre démarche? Est-ce que vous avez eu des moments justement difficiles? Et la question même que je voulais vous poser, c'est comment vos parents même ont accueilli le fait que vous vouliez devenir un artiste?
Il faut dire que tout au début c'était assez difficile parce que mon père était un ancien cheminot qui a travaillé au chemin de fer, qui véritablement à un moment donné m'a dit: Khalidou, voilà, tu viens, je vais te trouver un poste au chemin de fer. Mais je n'en voulais pas du tout. Je n'en voulais pas parce que un jour, je suis rentré dans son espace de travail, entouré de fer et de machines qui grouillaient autour de moi. Quand je soulevais la tête, je voyais le plafond, l'ardoise et tout ça, ces faisceaux de lumière qui traversaient. Je sentais que ce n'était pas mon espace naturel.
Ouais.
Et quand un jour, un de ses amis, il a expliqué: il y a mon fils qui passe tout son temps à dessiner à la maison. Je ne comprends pas pourquoi. Il fait des installations, il fait des cises, parce qu'il m'arrivait dans la journée de monter des cordes dans ma chambre, et en ce moment j'étais encore très jeune. Il a insisté pour que j'aille faire le concours des chemins de fer pour être un cheminot. Je suis allé effectivement au chemin de fer, parce que je n'osais pas dire non, je ne peux pas le faire. Je suis allé le faire, bien sûr. Mais en faisant le concours, je n'ai pas... écrit, j'ai dessiné un flamant rose, je me souviens très bien. Ce flamant rose que j'aimais beaucoup, que j'ai vu dans des images, je ne sais plus. En tout cas, je pense que j'étais en ce moment au club Aljana, parce qu'il y a les Allemands qui m'avaient invité au club Aljana très jeune pour me demander de faire des décorations pour le club Aljana. C'est un peu à Vembour, Sali, un peu à l'est du Sénégal. C'est à peu près à 30 km de Dakar. Je suis allé, c'est là où j'ai découvert les flamants roses. Quand j'ai vu les flamants roses, ils m'ont ébloui avec leur couleur rose. C'était magnifique, cette couleur douce. Je suis revenu faire le concours, j'ai dessiné un flamant rose. Et le professeur qui passait entre les bancs m'a dit: mais jeune homme, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit: mais je suis en train de faire le concours. Il me dit: oui, c'est comme ça que vous faites. J'ai dit: oui, c'est comme ça que tu le fais. C'est ma façon de m'exprimer. Il disait: en tout cas, hein, vous feriez mieux d'aller à l'école des Beaux-Arts. Et tout de suite, j'ai dit dans mon fort intérêt: ah, que Dieu vous entende. Bien sûr, à la fin, je suis revenu à la maison, faisant descendre la mine très triste. Mon père, le soir, m'appelait dans le salon, parce que c'est là où il appelait tout le monde le soir pour voir ce qui s'est passé dans la journée. J'ai eu peur quand même. Je lui ai dit que papa, malheureusement, je n'ai pas réussi. Il me dit: ah bon, comment tu as fait? Pourtant, tu es... J'ai dit: oui, je suis intelligent, mais je n'ai pas réussi au concours, je ne peux rien faire, je ne peux pas faire autrement. Et c'est là où c'est parti. Effectivement, il m'a dit: bon, il m'a laissé. Je continue à dessiner sur les murs, tout ce qui passait devant moi, les Mickey, les rangs, tout ça. Il m'a dit: mais qu'est-ce que tu veux faire exactement dans la vie? J'ai dit: non, moi, je veux être un peintre. Un peintre? Mais tu es malade. Mais je te trouve un travail au chemin de fer, tu me dis un peintre. Bon, c'est ce que je vais faire, je vais voir si je peux te trouver même au poste, que tu puisses être voilà, là-bas au chemin de fer, à la côte d'embauche. Mais il a parlé de ce projet avec un de ses amis. Il a dit: ah, ça, il ne faut jamais l'accepter, parce que j'ai un neveu qui est peintre, mais qui vit en Allemagne ou en France même. Je pense qu'il est même maintenant un drogué. Il fume du chanvre, il boit de l'alcool, il ceci, cela. Il a tellement parlé à mon papa.
Ah ouais.
Et quand je suis arrivé, j'étais complètement découragé, parce qu'il m'a dit: oui, mais je lui ai dit: mais c'est lui, c'est son fils, c'est son neveu. Mais ce n'est pas moi, moi je suis le fils de mon père. Il m'a regardé, il m'a dit: mais... tu es courageux? Je dis: oui, je suis le fils de mon père, je suis le fils d'Ali Kazis, vous êtes mon père. Et vous avez inculqué en moi des vertus qui ne me permettent pas de faire certaines choses. J'ai une destination très claire et c'est là où je veux aller. Il m'a dit: ah, ça, vous êtes vraiment décidé. Et c'est là où je suis parti totalement pour aller faire ma formation, sortir pendant 4 ans, 5 ans, continuer mon parcours, monter ma première exposition au centre culturel Blaise Senghor, je peux même dire à la Galerie Bruno. C'est là où j'ai fait ma première exposition et j'ai rencontré Joseph Zobel, écrivain. Je me souviens, de grande taille, et lancé très noir. Je ne sais plus quelle fête il y avait à ce jour-là. Il est rentré par hasard dans la galerie. Il a fait le tour. Moi, je ne le connaissais pas, mais je connaissais son nom à travers nos enseignements. Et il a regardé, il a pris le livre d'or, il a écrit, enseignant, il a écrit Joseph Zobel. J'ai regardé, j'ai dit, mais c'est vous, Joseph Zobel? Il me dit, oui, c'est moi. Ah bon? Il me dit, jeune homme, vous serez un grand artiste un jour. J'ai vu votre travail. Et en ce moment aussi, je faisais beaucoup de l'encre de Chine. Bien sûr, quelques peintures, des toiles, parce que je n'avais pas assez de moyens. Mais il a regardé mon travail, il m'a dit que vous avez de l'avenir dans l'art, continuez. Et c'est là que j'ai perdu beaucoup de documents avec mes déménagements, parce que vous savez, c'est ensuite que j'ai continué mon parcours, exposé au centre culturel de Senghor. C'est là où, maintenant où l'État est venu une première fois avec deux artistes, une exposition collective, ils m'ont acheté deux œuvres. Alors ces deux œuvres achetées, l'État m'a payé l'argent. Je suis allé voir mon père 2 mois après une exposition parce qu'on a attendu le temps de payer. Je suis arrivé à la maison à Thiès, c'est à 70, moi j'habite 70 km de Dakar. J'ai dit à mon père, voilà, j'ai fait une exposition, ceci. Il m'a dit, oui, j'étais au courant, j'étais venu depuis lors, c'est bien, ça c'est bien. J'ai dit, oui, d'ailleurs j'ai même vendu 2 œuvres. Il m'a dit, ah bon, j'ai vendu 2 œuvres? J'ai dit, oui, j'ai vendu 2 œuvres. Alors j'ai pris l'argent, je lui ai donné. Effectivement, parce que je lui ai donné tout l'argent, il m'a dit, mais. C'est bien. Il a pris l'argent, il ne m'a rien dit. Il m'a dit, OK, je suis ressorti de son salon. Il ne m'a pas appelé jusqu'au soir, vers 21h dans le salon. Il me dit, Kalidou, voilà, tu m'as remis l'argent. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je lui dis, non, moi, je ne veux pas, je veux même pas toucher l'argent. J'ai envie de continuer encore. J'ai simplement besoin de matériel. Comme il refusait, il ne voulait pas trop, il m'a dit, bon, voilà, ce que je vais faire, je donne courage, c'est très bien d'avoir travaillé. Est-ce que tu penses que ça va continuer comme ça? Parce que tu dois te marier, tu dois avoir une famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, en tout cas, moi, j'ai envie de continuer. Même si c'est difficile, je vais continuer. Il m'a donc dit, c'est un choix que tu as fait du coup. J'ai continué mon cours d'artiste. Le lendemain, mon père est allé m'acheter, véritablement, j'étais fier, des livres de Paul Gauguin, de Renoir, de Rembrandt, de Picasso, de Courbet. Et parce que au marché aux puces, je ne sais pas comment il a trouvé ces catalogues qui étaient vendus au marché simplement pour faire des emballages, des choses comme ça. Moi, quand j'ai reçu ces documents, oh là là, c'était extraordinaire. C'était véritablement le paradis pour moi. Et j'ai dit, non seulement il a accepté que je continue de peindre, mais il m'achète encore des catalogues. Et ça, j'en ai beaucoup, beaucoup appris parce que j'ai lu, j'ai vu presque ces écrits-là par rapport à la démarche de ces artistes, ce qu'ils faisaient, leur tendance, etc. Et très jeune, j'ai compris beaucoup, beaucoup de choses.
Est-ce que vous serez parmi nous au festival au mois de septembre?
En tout cas, si je suis invité à temps, je pourrais prendre toutes les dispositions pour dégager de mon emploi du temps, pour venir non seulement assister, parce que le thème que vous avez développé, c'est un thème qui me tient à cœur. Mathieu, imaginez la beauté d'un songe. Quand je parle de la beauté d'un songe, c'est une sorte de métaphore féconde. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est que nous sommes dans un monde en plein recul, où l'amour est véritablement compté sur le plan économique. Imaginez aujourd'hui, sur le thème que je suis en train de travailler sur ces personnes déplacées, ces mouvements migratoires. Imaginez le regard inquiet d'une mère interrogeant le néant quant à l'avenir de ses enfants. Victime de ce que je venais de dire avec cette thématique de parler un peu, de Allah n'est pas obligé. Parce qu'effectivement, toutes ces guerres fratricides ont décimé nos pays. Et d'autres pays aussi aujourd'hui qui est devenu un monde global. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important, dans le cadre de la diversité des expressions culturelles, d'avoir un apport déterminant dans le sens du rapprochement et la consolidation des peuples par une offre d'informations objectives, sans aucun parti pris ni calcul, outre l'intérêt général, à l'intérêt de même participer à la formation et à l'émergence de nos peuples. Mais tout cela, c'est par l'amour. Imaginez aujourd'hui que Dieu a tout créé dans la vie. Mais d'où vient la fleur? La fleur, c'est l'amour. Le parfum, c'est l'amour. Mais ce que nous unit, c'est le sens. C'est virtuel, mais dans le moment, ça devient physique. Et je pense que c'est aujourd'hui un impératif que commande notre survie en surmontant tous nos antagonismes, comme je l'ai dit. Il n'y a que l'amour de son prochain qui nous permet de tendre la main, d'ouvrir ses bras sans exclusion à chacune et chacun pour que le sourire large et radieux regagne son droit de cité.
Ben, je pense que c'est une belle conclusion. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, mon
Merci,
cher Mathieu.
Khalidou.
C'est moi qui vous remercie pour ce partage. Merci.
Et puis
Et on reste à côté. À très, très bientôt.
merci beaucoup, merci. À
Merci.
bientôt. Au revoir.
Allez, à bientôt. Au revoir.
Djerdjef, merci.